un rendez-vous en ligne au monservicecertifié.ca.
Gravel. C'est vendredi. Puis, les vendredis, dans Gravel, dans le retour, on jase de sport. Mais surtout de la vie avec notre chum Pierre-Houd. Gravel dans le retour avec Denis, Véro, Audrey et Pierre-Houd.
C'est Gravel dans le retour à Boulevard 102.1 418-971-1021 pour nous rejoindre, évidemment. Et nous, on s'en va rejoindre, mon Dieu, le gars qui a été célébré, qui a été fêté la semaine dernière du côté de Radio-Canada, en direct de l'univers. Une émission qui est en direct, hein, avons-nous appris. Si on avait regardé le titre comme faux, on aurait pu allumer par nous-mêmes.
Parce qu'il y a plein d'affaires qui s'écrivent en direct et qui ne sont même pas en direct pour vrai.
Pierre-Houd, comment ça va?
Salut Denis, bonjour Véro, bonjour tout le monde. Je peux vous le confirmer, c'est vraiment en direct. C'est rodé au quart de tour. C'est une machine exceptionnelle. Et moi, je vous en parle, mais vous auriez même intérêt à parler à mon amoureuse Lynn, à Sylvain Cossette, à Marc Denis, à ma fille, à tous ceux qui ont fait partie de cet univers-là la semaine dernière. Ils pourraient vous dire à quel point c'est une machine implacable, mais une machine tellement humaine que tout le monde finalement sort de là sur un nuage et pas seulement l'invité d'honneur. Donc moi, c'est ce que je retiens là au départ sur le plan, vraiment sur le plan technique et sur le plan de la production. Toute l'équipe de France Baudouin est très, très, très concentrée, très focussée, comme on dit en bon français. Mais elle est aussi très passionnée, Denis, et ça donne le résultat qu'on connaît, une des émissions les plus populaires à chaque semaine au Québec.
Pierre, j'en parlais avec les auditeurs en début de semaine, puis je disais, ça doit être une job d'animation horrible parce que ça va tellement vite. Moi, je ferais cette émission-là sur 4 heures ou 5 heures à peu près, là, parce que tu as l'impression qu'il faut aller vite parce que tu as plein de surprises de prévues, tu as plein de numéros qui sont prévus. Moi, je me dis, France Baudouin, après une heure de même, là, probablement que c'est comme après un sprint aux Olympiques. Il faut que tu te reposes 2 jours après pour retrouver tes énergies. C'est un feu roulant, littéralement. Là.
Alors, je pense que c'est vrai pour tout le monde sur le plateau.
Ouais,
parce que... Parce que tu le sais, t'es musicien toi-même, t'es chanteur, Véro, avec toute cette expérience-là aussi. C'est un don de soi, cette émission-là. Et j'ai parlé beaucoup avec les filles puis les gars de la technique. J'ai parlé beaucoup avec les musiciens, évidemment avec les artistes qui sont là. L'émission termine à 20h et on est tous épuisés, mais épuisés dans le bon sens.
Ouais.
Et puis là, il y a un petit cocktail après, puis personne veut quitter le cocktail parce que t'as l'impression que t'es avec des amis de longue date. Et plus personne veut partir.
Ben ça finit à quelle heure cette soirée-là, Pierre, tiens?
Ben écoute, je sais pas pour moi. Moi, j'ai quitté autour de 22h30.
OK.
Donc, ça veut dire que de 20h à 22h30, j'ai fait le tour et je n'ai même pas fini de faire le tour parce que j'ai parlé longuement avec Michel Fugain qui voulait en savoir plus sur qui j'étais parce qu'il a accepté de venir de Paris exclusivement pour l'émission.
C'est fou, ça, hein?
Lui, c'est complètement fou.
Il est hallucinant, puis c'est drôle, hein, parce qu'il y a quelques semaines, tu nous avais dit que tu l'avais revu en spectacle, puis que tu étais impressionné par sa fougue. Voilà. 82 ans, j'en revenais pas de voir la forme dans laquelle il était, puis l'aisance qu'il avait encore sur scène à cet âge-là. Il était époustouflant, ce monsieur-là.
Il était époustouflant. Il est plein de vie, il est en santé, il est en amour, il a refait sa vie amoureuse il y a quelques années, un peu comme moi.
Ça aide des fois, hein?
Il est super heureux. Et sa nouvelle conjointe, elle est une soie, elle est avec lui sur scène, hein, je vous l'avais dit.
Ouais.
Elle est choriste aussi, elle est chanteuse et elle vit un très beau roman d'amour avec Michel Fugain. Fugain, la même chose. Écoute, c'est un peu ce qui était frustrant, c'est qu'à 22h30, j'avais encore pas fait le tour. C'est à un moment donné, comment tu veux pas t'arrêter puis jaser 10 minutes avec mon ami François Pérusse? Comment tu veux pas jaser une heure avec Fugain? Jody Richards, on s'est mis à se rappeler l'époque de Toulouse,
ben
puis
oui.
L'époque de C'est quoi quand j'étais animateur. Ça a duré une demi-heure, elle voulait plus partir. Bon, alors moi, à 22h30, pourquoi? C'est que, un, j'avais pas soupé, puis deux, j'avais... de la F1 à 7h30 le lendemain matin.
C'est une bonne raison de devoir quitter à un moment donné.
Ben écoute, on a ramené notre meilleure couple d'amis à la maison. on a mis une pizza au four,
bon.
Et puis on a ouvert une bouteille de rouge et on s'est laissé bercer par ce moment-là parce que ma famille et mes amis qui étaient dans la salle et mes collègues de RDS, certains étaient là, ils ont tous été sur un nuage. J'en reviens pas. Ça fait une semaine, j'ai encore les frissons. Je manque de mots pour exprimer comment on se sent quand on est au cœur je vais reprendre le terme, de cet univers musical-là. Mais ce que j'ai trouvé le plus touchant, ce n'est pas l'honneur qu'on me fait, ce que j'ai trouvé le plus touchant, c'est que tous ceux qui ont participé l'ont fait avec bonheur, même pas avec plaisir. Écoute, Breen Leboeuf était pris ce soir-là. Quand on lui a dit, Pierre, pense que ton blues passe plus dans la porte, c'est un monument dans l'histoire de la musique au Québec. Il a été ébranlé. Il a dit, je ne peux pas être là le samedi, mais je suis prêt à aller préenregistrer ma performance. Il est venu le vendredi. Il est venu préenregistrer la performance. Et France, elle m'a dit, il était tellement heureux que tu aies pensé à lui et que tu aies pensé à son interprétation aussi, parce que ça aurait pu être interprété par quelqu'un d'autre. Tu sais, ça aurait pu être Sylvain, là, quelqu'un qui a pu chanter « Mes blues passent plus dans la porte ». Ben non, Breen tenait lui-même à être là, en différé. Écoute, je sais pas comment l'exprimer, je pense, encore, mais... Et les commentaires que j'ai donnés pour conclure, si tu permets, puis c'est peut-être les commentaires que vous avez eus, ça a comme eu un effet rassembleur sur les gens qui ont écouté l'émission. Tout le monde me disait qu'ils étaient étonnés, mais à la fois heureux de mon choix de musique ou du choix final qui a été fait par l'émission. Étonnés parce qu'il y a des gens qui ne pensaient pas que je pouvais avoir certains délires ou certains
côtés. Nous autres et les auditeurs de Boulevard sont au courant. Là. Ils te connaissent un petit peu plus que les autres. Eux autres, ils n'ont pas été surpris.
Bon, ben tant mieux. Ça a été moins un choc. Mais ce sont les commentaires que je reçois le plus. Mon Dieu, qu'on a passé une soirée réconfortante. Et ça, pour moi, si j'ai pu contribuer à ça, parce que tu me dis souvent, ben, c'est ce qu'on essaie de créer dans notre discussion du vendredi sur vos différentes plateformes. Si j'ai pu contribuer modestement à créer ce sentiment-là, j'en suis très heureux parce qu'on en a besoin plus que jamais dans notre vie actuelle. Et puis écoute, le dernier cadeau qu'on a reçu et toute la production m'a partagé leur euphorie. On a frôlé le million de téléspectateurs. C'était 984 000 dans les numéris. Et c'est une part de marché d'à peu près 47 % ce samedi soir-là. Alors, écoute, il n'y a que du bon. Puis je pense que je n'ai pas encore fini d'assimiler toute la magie de cette soirée-là.
Mes parents sont addicts à l'émission parce que c'est leur petit bonheur du samedi soir. Puis je l'ai compris et j'ai réalisé quand j'ai installé les boys puis ma copine dans le salon que c'était la première fois qu'on écoutait une émission de variété québécoise en direct en famille. Puis moi, j'ai eu le sourire à partir du moment où ça a décollé jusqu'à la fin de l'émission. Comme toi, les larmes me sont montées aux yeux. J'ai trouvé l'idée tellement belle, douce et sensible d'aller chercher les archives de ton père qui avait joué à l'émission pour faire la transition avec ta fille qui a complété le morceau en direct. C'était de l'émotion au pied carré, là.
Ah, mais hein, j'ai été dans les deux extrêmes du spectre des émotions. Et puis France, elle me dit, garde, là, c'est beau, c'est ce qu'on veut dans l'émission. Tu te laisses aller, c'est ton show. Mais c'est mon show, mais c'est son show aussi parce qu'elle est une pilote extraordinaire. Mais je peux dire une chose, c'est qu'en coulisses, et elle le dit elle-même, sa sœur, Josée, est exceptionnelle. Parce que dans le fond, celle qui bâtit l'avion, c'est Josée.
OK, OK.
Vraiment, avec une équipe de recherchistes extraordinaire. Mais fin en plus, Denis, c'est ça l'affaire, c'est que ils sont gentils comme tout. Mm. Écoute, ma blonde a eu un tout petit caméo quand elle a fait « Et on roule ». Lynn a dit « Je me suis senti comme la reine de l'univers ». Parce qu'on en a pris soin comme ça. Même chose pour Marc Denis. Même chose pour ma sœur qui a chanté. Elle dit, j'ai vécu probablement un des plus beaux moments de ma vie. Donc, tu vois, ce que vous voyez à l'écran, ce que ça projette, là, ça peut pas être fabriqué, ça peut pas être du chiqué.
La mâchoire, Pierre, m'a décroché à un moment précis, puis là, ça fait une semaine, puis j'en suis pas revenu encore. Là. Bon. Toi, je te connais bien, mais on a une perception de certaines personnes à la télévision. Ton ben de F1, là. quand j'ai vu, je savais que Patrick Carpentier dromait un peu, mais quand j'ai vu Bertrand avec une baisse dans les mains, j'ai fait « Hein? »
Et avec « Are you gonna go my way? »
Ben oui!
De Lenny Kravitz. Mais écoute, ça c'est... en fait, cette chanson-là, elle est devenue un peu la chanson culte pour Bertrand et moi parce que dans les premières années d'RDS, on a créé un band. Et on a essayé d'avoir un répertoire varié. Et « Are you gonna go my way? » c'était un peu notre pièce d'ouverture.
OK.
Et moi, en principe, j'aurais dû être batteur, j'aurais dû être drummer, mais Paul Buisson était encore en vie. Et Paul était, si vous vous rappelez, gentil géant.
Ouais.
Paul était tout un batteur exceptionnel. Et il n'était pas question que je lui enlève son rôle. C'est là qu'on m'a demandé de jouer du clavier, ce que je peux faire. Et on dit, on n'a pas de chanteur. Alors, on dit, OK, je vais chanter. Mais donc, moi, dans le... Et après ça, on a eu une demande formelle du gala de la presse sportive, à l'époque qui existait, et c'était télédiffusé. Et on nous avait demandé de faire une performance avec Patrick, dont on avait appris qu'il jouait de la batterie.
Ouais.
Alors donc, on avait fait Jumping Jack Flash pour cette performance-là. Bertrand à la basse, Patrick jouait de la batterie, moi je chantais au clavier, et on avait un de nos techniciens, Marc Vigée, qui était un guitariste hors pair. On complétait un peu le quatuor là, ou le quintet. Et donc, moi, j'ai mentionné ça tout bonnement à la recherchiste, à José. Ça lui est resté en tête.
T'es allé chercher.
Ouais, puis Bertrand et Patrick ont accepté. Et tu vois encore là, mon ami Bertrand, c'est pas nécessairement le plus exubérant, c'est pas le plus expressif. Il est très cartésien, il est très cérébral. Et il est venu me faire un câlin après l'émission. Il a dit, écoute, j'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie. On était tous sur le plateau le lendemain à 7h30, là, je vous prie de me croire. Donc ça, c'est debout à 5h. On a dormi 4h, les trois. Et puis, c'était magique. Patrick tellement qu'il est allé se racheter une batterie. Il s'est acheté un V-drum.
Ça lui a redonné le goût.
Parce que ce qu'on m'a dit, c'est que il voulait tellement bien paraître avec les musiciens professionnels du plateau qu'après les deux derniers Grands Prix, enfin, excluant celui de la semaine dernière, Patrick est resté à Montréal parce qu'il habite au Vermont. Ils se sont loués un studio quelque part puis ont fait à peu près 8 heures de répétition, les deux, parce qu'ils voulaient bien paraître. C'est comme bon. Moi, j'avais fait, d'ailleurs, avec le prof de drum de Diane Ribault, quand j'ai fait mon petit caméo là, au jour de l'an, il y a deux ans. Enfin, bref, vous voyez, jusque-là aussi... Puis après ça, ben, parle, jase avec Fugain. Fugain, j'apprends qu'il est pilote. Il apprend que je suis pilote.
Ah,
et ça donne qu'un de mes invités personnels, c'est un de mes meilleurs amis, c'est mon premier instructeur de vol, qui était aussi un ami d'adolescence. Imagine-toi la discussion que ça a donné. Son imprésario n'arrêtait pas de le prendre par le collet, dire « Michel, on vole demain vers Paris, tu dois venir. Non, laisse-moi encore quelques secondes, je veux parler d'aviation. » je m'en vais dans toutes les directions encore aujourd'hui, mais c'est un peu ça la magie de cette soirée-là. Certainement un des plus beaux moments de ma vie. Tout a été parfait, le dosage était bon, puis France me disait, elle dit, écoute, c'est encore plus agréable parce que le chronomètre du direct, tu l'as dans ta tête parce que ça fait 50 ans que je fais du direct. Alors, elle dit, c'est le fun d'avoir un client comme toi parce que elle dit, tu me regardes dans mes yeux, tu sais qu'à un moment donné, t'arrêtes ta réponse, puis tu sais qu'on passe à d'autres choses. Mm-hmm. Elle est extraordinaire. Bref, et je vais conclure là-dessus. La magie, en plus de cette émission-là, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent dans l'univers, du moins dans l'univers nord-américain. Il y a bien des shows américains qui ont la musique comme toile de fond, mais un direct comme ça, qui va plonger dans l'univers musical d'une personne, à ma connaissance, je n'en connais pas.
Qui mélange artistes connus et amis personnels, ça aussi, c'est habile comme concept.
C'est très habile. Ouais. Puis moi, en plus, ce furent aussi des amis professionnels parce que tu sais, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à lancer des noms là, pour me vanter. Mais tu sais, Sylvain Cossette, on s'écrit régulièrement. François Pérusse, la même chose. Par ailleurs, et c'est pour ça, et Réal Bélan, j'ai des inside avec Réal, on s'adore. je ne savais pas qu'il chantait bien comme ça. Quel
Moi non
talent
plus.
De chanteur. On
me dit qu'il chante énormément dans ses spectacles, ce que je ne savais pas non plus. Quand je l'ai entendu chanter, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, il a toute une voix, lui.
Il a toute une voix. Et Charles Prévost-Linton était tellement touché que j'ai pensé à lui.
C'était une bonne idée.
Quand tu as fait My Way, j'ai éclaté. Sylvain Cossette, dans le temps des cathédrales, Sylvain est venu me voir après, il dit, regarde, il dit, je suis en forme, il est régénéré, Sylvain, sa santé est enfin bonne, il est rendu à 10 000 billets vendus, imagine-toi, pour sa tournée en 2025, puis il dit, je voulais te faire plaisir en te livrant, écoute, il a pris la balle, puis il l'a frappé l'autre bord de la clôture, je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça, vous, à la télé, mais cette interprétation-là, va rester mémorable pour moi. J'avais le souffle coupé, puis on a un contact visuel, on est très proche de l'artiste ou des artistes. Vraiment, c'est quelque chose de difficile à expliquer. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je le dis encore.
Il y en a une, puis moi, c'est ma dernière parenthèse là-dessus. Il y en a une qui avait l'air vraiment contente d'être là, puis on l'entend beaucoup, mais on la voit pas souvent. Puis moi, je me suis toujours demandé de quoi ça a l'air Diane Bibeau qui joue Sub Divisions de Rush, précisément. Là.
Mais Diane le fait régulièrement
oui.
à l'avant-match au Centre Bell. C'est hallucinant comment elle le rend. C'est hallucinant. Je comprends qu'il y a toutes les trames. Tu étais meilleur que moi. Là. Je suis un petit peu dépassé par toutes les trames qu'on peut utiliser. Là.
Oui.
Est-ce qu'on appelle ça encore le mode midi?
Eh hey, mon Dieu Seigneur! Là.
On appelle ça comme ça. C'est vrai que ça s'appelait comme ça. Hein?
Ouais.
Bon, en tout cas, bref, tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a, c'est bien. Mais encore faut-il livrer l'interprétation, la mélodie. C'est une artiste exceptionnelle. Et c'en est une autre qui était complètement renversée lorsqu'elle est sortie de là. Elle était presque bouleversée. Puis là, elle réalise, puis tous les artistes qui étaient là réalisent l'impact de cette émission-là. Mm-hmm. C'est énorme. Puis écoute, conclure avec Verville qui chante les Raffman, là, vraiment. écoute, ça ne pouvait pas être une meilleure conclusion, plus amusante que celle-là. Donc, avec plein d'amitié aussi et plein d'émotions avec les artistes qui étaient là. Puis je sais que Breen Leboeuf n'était pas là, mais je l'écoutais, puis là, je revivais mes années à C'est quoi en 78, 79. Puis je me disais, ça se peut pas, il est donc fin de faire ça. Mais là, France me disait, il n'est pas fin, il voulait tellement le faire. Alors voilà.
Hey, Breen Leboeuf, là, c'en est un autre, ça, qui vieillit bien. Puis, tu sais, on le croise dans Walmart, mais là, on le sait tout de suite qu'il est musicien. Hein?
Là, on le sait tout de suite.
Il a tout un look.
Ben, écoute, je suis quasiment jaloux de ses cheveux.
Oui,
encore.
Oui, oui.
Même s'ils sont plus sel que poivre, disons que je suis pas mal jaloux. Alors, vraiment exceptionnel. Et encore une fois, un grand merci. Mais tu sais à qui j'ai envie de dire merci? C'est aux 900 quelques mille téléspectateurs qui étaient là. On le sentait tellement. Et les moyens de communication qu'on a et qui me donnent tout ce... Je ne dirais pas feedback, là, mais qui me donne toute cette retombée. Dans le fond, c'est ça, ultimement, qui est la force de cette émission-là et qui te propulse encore plus haut. C'est que tu sens qu'il y a un réconfort qui est apporté aux gens dans leur salon. Et ce soir-là a été particulièrement fort.
Pierre, parlant de souvenirs, j'ai partagé une photo souvenir avec les auditeurs sur mon Facebook ce matin.
Je l'ai vu.
Il y a 7 ans, jour pour jour, j'avais le privilège de m'asseoir en ta compagnie pour te regarder décrire au complet le match hors concours entre le Canadien et les Maple Leafs de Toronto qui avait lieu au Centre Vidéotron. Je te dirai jamais assez merci pour cette expérience-là. Ça a changé ma vie, je te le cache pas. De te regarder travailler, de te voir travailler, de saisir les petites subtilités, de répondre à un paquet de questions que j'avais en t'entendant, tu sais, comment ils fonctionnent. J'ai l'impression qu'ils fonctionnent avec des feuilles plus qu'avec des ordinateurs. Qui parle dans son oreille et ainsi de suite. J'avais tellement de questions.
Regarde-tu des écrans? T'as vu jouer au vautour perché sur le bar, c'était hot.
J'avais l'impression d'être en arrière-scène avec David Copperfield puis de voir où c'est qu'il allait chercher le lapin pour vrai. Était où la moitié de la fille? De voir le jumeau de David Copperfield qui se servait là, pour apparaître à un moment et à un autre. Non, mais de voir les trucs d'un vieux magicien, j'ai trouvé ça extraordinaire comme privilège. 7 ans plus tard, je veux te le dire encore, merci du fond du cœur, Pierre.
Ben Denis, ça a été une très belle soirée pour moi. Toute ton équipe était là aussi.
Oui.
Mais moi, ma première réaction ce matin, c'est pas déjà 7 ans.
Oui.
Puis ma deuxième réaction, j'essayais de me rappeler, est-ce qu'on avait eu un affrontement pas pire ou si c'est la fois où le Canadien avait amené une formation comme ci, comme ça.
Je pense que tu avais eu à apprendre beaucoup de nouveaux noms des deux bords.
Écoute, ben, ça ressemblait probablement au match d'hier. Hier, c'est... mais c'est... le contexte est différent, disons. Là. Parce que même si ce sont des joueurs recrues ou des joueurs étiquetés Ligue américaine, l'engouement actuel crée des codes d'écoute assez spectaculaires. Écoute,
hey.
New Jersey est venu avec une formation à peine de la Ligue américaine mardi.
Okay.
Tiens-toi bien, on a eu une moyenne d'écoute de 480 000 et on a eu une pointe d'écoute à près de 600 000.
Malgré tout, wow!
Véro, ce sont des chiffres qu'on a de la misère à atteindre ou qu'on avait de la misère à atteindre en saison régulière il n'y a pas si longtemps.
Si on remonte à on quoi, faisait... 4 ans, 5 ans peut-être?
Ben, mais même il y a quelques années à peine. Parce que je pense que le vrai déclic, puis je m'excuse, je m'éloigne de tes beaux mots, Denis. Merci encore de dire ça comme ça. Moi, je fais mon travail. J'aime ça le partager. Tu sais, les pilotes, ils ne peuvent plus maintenant, mais des fois, les pilotes, ils aiment ça avoir un visiteur dans le cockpit parce qu'ils aiment partager leur univers, leur passion. Moi, j'étais honoré, ravi de t'avoir ce soir-là dans le Colisée et j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire.
Oui.
Mais pour revenir à ce qu'on disait, c'est que là, l'engouement, moi, j'ai comme senti le déclic après la deuxième, au début de la deuxième moitié de la dernière saison. On a senti comme, je ne sais pas, une espèce de d'acceptation générale de là où en est le Canadien, là où s'en va le Canadien, puis ça a bien de l'allure, ça prendra le temps que ça prendra, mais entre-temps, en autant que ça progresse, on va être là.
C'est notre équipe. C'est pas une chimie qui est précise, ça, ressentir que c'est ton
équipe.
Puis je pense que l'alignement actuel, l'entraîneur, les dirigeants, les talents sur la glace, les talents qui se développent, il y a un feeling global que ce Canadien-là, c'est l'équipe des prochaines années. Puis les gens sont all-in. On le sent ici à Québec aussi, Pierre.
On dirait que le noyau du joueur a le goût d'être à Montréal.
Mais pas on dirait, c'est vrai.
Il y en a qui passent leurs étés à Montréal alors qu'auparavant, mon Dieu, ils profitaient de l'opportunité de l'été de se sauver le plus rapidement possible de la métropole. Là, j'ai l'impression qu'eux aussi ont un attachement envers la ville.
C'est vrai, Véro, parce que c'est comme ça qu'on le bâtit. Moi, j'ai vécu le début de l'ère Crosby à Pittsburgh. C'était Michel Therrien qui était le coach à l'époque, dans le vieil igloo. Puis Michel, il disait, j'ai dit, c'est quoi le quotidien avec tous ces jeunes-là? Parce que là, tu as Crosby qui avait 18 ans, Christopher Le Temps avait à peu près le même âge, Malkin, t'es pas vieux non plus. Il dit, tu sais quoi mon principal problème? Je suis pas capable de les mettre dehors. Ils veulent pas quitter l'aréna. Il dit, je peux les mettre dehors de la glace, ils restent là, ils jouent au ping-pong, ils jouent aux jeux vidéo, ils avaient une petite cuisine, ils mangent là, ils se font des céréales. Ouais. Je suis pas capable de les mettre dehors, allez-vous-en chez vous. Ils étaient trop bien ensemble. Et le Canadien, pourquoi on commence à voir ça, Véro? C'est parce que le Canadien bâtit son équipe sur ces bases-là. Ce sont des jeunes qui arrivent au tout début, à la fin de leur stage junior ou universitaire. Puis là, ben, ils s'intègrent entre eux. Et il y a quelque part un peu de chance là-dedans. Le hasard fait qu'il y a beaucoup de très bons jeunes là-dedans qui ont les valeurs à la bonne place et qui ont le talent. Évidemment, ça t'en prend pour jouer dans la Ligue nationale, mais qui ont les valeurs à la bonne place. Et petit à petit, on commence à... Je dirais même qu'on commence même à briser l'inconfort ou la barrière de la langue. Avez-vous entendu Slavkovski m'imiter?
Ben oui, ben oui. J'ai voulu te le faire jouer en introduction de conversation, puis je me débattais avec mon cellulaire. Puis si tu me donnes quelques microsecondes, pour les gens qui ne l'ont pas entendu, c'est une vidéo qu'RDS a partagée et on a demandé à Slavkovski de devenir Pierre Houde. Pierre, ta job n'est pas en péril.
Oui, mais celle de Slavkovski, non.
Ah non, tu voulais pas prendre sa place?
Ah non.
On l'écoute.
La tire à la B. I don't know what happened after. Quelle histoire, ma parole.
Quelle histoire?
Ma parole.
Samuel
Montembeau.
Fait que... comment on dit, Pierre? Je pense que chacun va garder sa job de jour.
Je pense que chacun va garder sa job de jour. Mais voyez-vous, c'est un autre élément qui fait que... Bon, ça vient aussi avec la nouvelle génération, je te l'ai souvent dit. On dirait qu'ils ont une couche de teflon là, qui est extraordinaire parce qu'il est très, très, très... D'ailleurs, très utile dans le métier qu'ils ont choisi. Parce que, bon, ils sont bien payés, on le sait tous, mais un coup qu'on s'est dit ça, il y a quand même une énorme pression, il y a une énorme responsabilité d'être athlète professionnel. Mais on dirait qu'eux naviguent à travers tout ça beaucoup mieux. D'autres, peut-être un peu moins de temps en temps. Tu sais, Jonathan Drouin a consulté, puis Lainé a eu ses problèmes, puis Dieu merci qu'il y a des programmes de soutien et d'aide à tous les niveaux, y compris au niveau psychologique, pour les athlètes de la Ligue nationale. Mais globalement, ces jeunes-là ont une approche qui me fait craquer. Je te l'ai dit souvent, là, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai encore du plaisir. Je regardais hier les passagers dans l'avion. Tu sais, c'était des Owen Beck. Et puis même, tu sais, des Alex Barré-Boulet. Il est plus jeune, mais c'est encore quand même des joueurs, des athlètes qui ont encore beaucoup de temps devant eux. Et puis moi, ça me stimulait tellement d'accompagner l'équipe hier à Toronto dans ce contexte-là. Et puis demain soir, ben, à l'inverse, on devrait voir quand même une formation un peu plus musclée, un peu plus aguerrie.
Des équipes B plus que C, mettons, là?
Ben, demain, je pense que ça va être plus que B. Moi, je pense que ça va peut-être être A moins.
OK.
Parce que là, hier, ce que tu fais, là, c'est que à la fois, tu donnes une vitrine avec un défi important quand même. Tu sais, aller jouer à Toronto, là, c'est intimidant pour
c'est
un
sûr,
jeune.
C'est sûr.
Puis Toronto avait une pas pire équipe. Il y a Matthews qu'on reposait hier. Mais tu sais, Nylander a été blessé, Tavares aussi, mais il reste que c'est quand même un contexte. Donc, tu veux ça pour tes jeunes. Tu veux ça pour Hudson. Tu veux ça pour Ryan Backer. Tu veux ça pour Owen Beck. Mais en même temps, tu dis à tes vétérans, écoutez, on vous apprécie, je vais le dire de même, là, on ne vous fera pas suer avec un aller-retour à Toronto dans un contexte de match préparatoire où vous n'avez rien à démontrer, prouver, gagner. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
On va vous laisser pour un super bon entraînement à domicile. Tu sais, vous n'aurez pas les pieds sur le pouf, mais on va vous laisser pour un super entraînement à domicile. Là, demain, il va encore avoir des auditions pour certains joueurs, mais je pense qu'on va avoir une formation. Sans avoir une formation complète, ça, tu vas peut-être voir ça plus samedi prochain à Ottawa, mais ça devrait quand même être assez représentatif pour le Canadien et probablement pas très représentatif pour les Maple Leafs à leur tour.
On va être nombreux encore demain à regarder ça avec vous autres du côté de RDS. Pierre, on est en pause dans le monde de la F1. La dernière fois qu'on s'est parlé de F1, on a parlé de Max Verstappen qui avait été mis à l'amende par les dirigeants de la F1 parce qu'il avait utilisé des gros mots. Le mot en P, là, l'animal,
oui.
Là, le fuck. Oui,
oui
c'est ça. Donc, il avait utilisé...
Oui, celui qui venait d'Alaska.
Oui, exact.
Oui, celui-là même. Là,
faisait tourner des ballons sur son nez.
Voilà, voilà. Oui. Très utilisé en F1, oui. Donc, après ça, il s'est présenté à une autre présentation de presse puis il a décidé de répondre par des monosyllabes en faisant la baboune et il a laissé entrevoir que moi, je suis tanné de me faire gosser en bon québécois puis je pense que je vais prendre ma retraite puis je pense que je vais m'en aller. C'est-tu comme un petit garçon quand on lui donne pas ses bonbons qui dit « moi, je quitte la maison » ou il y a quelque chose d'un peu plus sérieux et qui doit être abordé sur peut-être le décorum de la F1 puis ce qu'on demande aux pilotes de première ligne?
Ben lui, il y a un fil conducteur, Denis, okay, avant même l'incident de la semaine dernière. Il y a un fil conducteur dans ses propos, puis là, je pense qu'il faut, il faut respecter son honnêteté parce que ça revient naturellement très souvent. Il répète à qui veut l'entendre qu'il n'a aucunement l'intention de s'accrocher en F1.
Okay.
Tu sais, lui, je vais te donner un exemple, Valtteri Bottas. Bottas a été un coéquipier parfait pour Lewis Hamilton à l'époque chez Mercedes lorsqu'il sortait de Williams. Il a été extraordinaire chez Williams avec une voiture déficiente. Bottas, il a essayé de se convaincre 2-3 fois qu'il avait la colonne vertébrale pour résister à Lewis Hamilton et prétendre être champion du monde. Il n'a pas été capable. Après ça, il a dit « OK, mais moi, j'aime encore ça, l'univers de la F1. » Il s'est trouvé, comme on dit en musicien, une belle petite gig chez Alfa Romeo l'année passée. Et ça s'appelle maintenant Sauber. C'est redevenu, en fait, ça a toujours été l'opération de l'écurie Sauber, de Peter Sauber. Bon, tu regardes Fernando Alonso, qui s'amuse encore à 40 ans chez Aston Martin. Tu regardes Lewis, qui approche de la quarantaine, qui veut, imagine-toi, plonger dans le défi de Ferrari. Lui, à l'opposé, il a toujours dit, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, j'ai déjà goûté au meilleur de la F1. J'ai déjà atteint les sommets. J'ai déjà réédité certains records. Et quand j'en serai plus capable de passer et de vivre avec la lourdeur de la machine F1 pour un pilote, je vais vous dire au revoir. Je vais aller faire pousser des pissenlits. Donc, il a toujours été honnête là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il va passer de la parole aux actes en vieillissant? Tu sais, là, quand tu t'approches peut-être d'une certaine échéance, là, tu commences à dire, oh, peut-être que je vais m'ennuyer de ça. Oh, peut-être que, tu sais. Et donc, tu essaies de t'accrocher et peut-être qu'il va changer d'idée. Mais il a toujours été, jusqu'à maintenant, très constant dans ses déclarations. Donc, l'espèce d'irritant, puis un irritant, incidemment, qui a été partagé par d'autres pilotes.
Oui, oui, oui.
Puis des pilotes qui disent, hey, on ne veut pas devenir 20 flicis, là. on veut pas que ce soit aseptisé, on veut pas que ce soit... nous, là, on veut être des êtres humains, et puis on veut... Si vous êtes pour venir dans notre quotidien avec Drive to Survive, puis si vous ouvrez le micro, si vous rediffusez ce qu'on dit au micro avec notre ingénieur de piste, ben vous allez au moins nous laisser être vrais dans toutes les circonstances.
Ben là, c'est parce qu'on est des passionnés, ça va paraître une fois de temps en temps, hein?
Ben, puis écoute, là-dedans, t'es à chaud, t'es, nous, ce qu'on entend, évidemment, souvent, on entend une communication qui remonte à un tour ou deux, là, parce qu'on essaie de filtrer tout ça, mais oui, on veut ça, on veut savoir que ce sont des êtres humains normaux qui, dans une situation de stress extrêmement élevée et dans un niveau de performance exceptionnel, c'est normal qu'il y a des explosions de temps en temps.
Drive to Survive, dans le temps de Gilles Villeneuve, on aurait entendu des pas pires.
T'en aurais entendu, t'en aurais vu des pas pires. Écoute, il y a un film que j'ai beaucoup de difficultés à retrouver parce que je pense qu'il n'a jamais été libéré de droit au Canada.
Okay.
C'est One, le chiffre 1.
Ouais.
One.
Ouais.
C'est narré par Fassbender, ça.
Okay.
Ah, tu nous as déjà parlé de ça.
Écoute, je t'en reparle encore parce que ce que dit Denis, moi, c'est ce que j'ai vu de plus proche d'une autre époque. Ça commence par Martin Brundle qui frôle la mort à Adélaïde, à l'époque où la F1 courait là en Australie. Puis ça se termine avec le même accident de Martin Brundle qui survit à ce terrible accident-là. Puis entre les deux, ben là, tu te promènes dans tout l'univers de la F1, des années 50, des années 60, les années mortelles dans les années 60, les parties du samedi soir entre les pilotes. Ils ont trouvé des pièces extraordinaires en vidéo, en fait, pas en vidéo, en film, évidemment.
Oui.
Et donc, c'est à toi. Si jamais vous réussissez, pour les amateurs de F1...
Véro le cherche, là, je vois qu'elle est en train de faire des petits scans.
Je me souviens qu'un de mes amis à l'époque me l'avait trouvé de manière tout à fait légale. J'essaie de retrouver si je l'ai encore en quelque part dans mes affaires.
Mais bon, sur les plateformes, il n'est pas là.
Non, il n'est pas là du tout. C'est vraiment malheureux. Moi, je l'ai vu par hasard à NBC Sports, à l'époque où NBC avait son canal de sport.
Okay, ouais.
Je l'ai vu à New York un vendredi soir dans ma chambre d'hôtel. Et, mais donc, pour revenir à ta question, oui, il y a eu tout cet univers un peu, tu sais, party, playboy, on buvait, puis on fumait, puis on était dans le cockpit le lendemain matin. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout, mais il reste que c'est, les pilotes ont peut-être jugé un peu excessif la réaction de la FIA. Puis Lewis Hamilton, lui, avait pas tort de dire, ben, peut-être qu'il y a un petit peu de, je vais le dire poliment, là, il y a peut-être des petits stéréotypes dans votre propos, monsieur le président de la FIA, quand vous dites que tous ceux qui utilisent le mot en F, c'est seulement des rappers, ouais, là, et puis c'est seulement des musiciens ou des artistes de cette nature. Ça a été très, 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 je vais le dire, très idiot de sa part, ouais, très maladroit à tout le moins de sa part. Donc, que Verstappen éventuellement dise, moi, je ne veux pas m'accrocher là-dedans. Quand j'en aurai assez, ça va être bonsoir. Et puis, je vais aller faire autre chose.
Tu parlais de pilote vieillissant. Parle-nous de ce qui arrive avec Daniel Ricciardo.
C'est terminé pour le pauvre Ricciardo. Je sortais son pedigree, Denis, pendant que je te parlais tantôt. Ça a été un très bon pilote. Hein? Il a 8 victoires, il a 32 podiums. Surtout sa chaleur humaine, son sourire. Y a-t-il un sourire plus contagieux sur la planète que celui de Daniel Ricciardo? Lui, il a été un excellent coéquipier chez Red Bull, avec Vettel et ensuite avec Verstappen. Mais c'est un peu à cause de Verstappen qui a dit « Moi, si je reste ici, je vais étouffer, je vais disparaître, je n'existerai plus. Il est trop bon, le kid, à côté. Il est trop exceptionnel. » Alors là, la descente a commencé. Là, il s'est retrouvé chez Renault. Ça n'a pas fonctionné du tout. Après ça, il s'est retrouvé chez McLaren. À l'époque où McLaren se cherchait encore. Ce n'était pas la McLaren d'aujourd'hui, là, Denis. Une seule victoire chez McLaren. Après ça, ben, il a décidé de profiter de l'offre qu'on lui a faite chez AlphaTauri, alias Toro Rosso, alias RB. Il a dit, bon, ben, ça va être mon grand retour, ma grande énergie que je vais ramener en F1. Je pense que la flamme était éteinte. Mm. Et là,